Actes des Apôtres, chapitre 9, 32 à 43. La Bible dit ceci. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit vers ceux qui demeuraient à Lude. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il s'éleva. Tous les habitants de Lude et du Saron le vinrent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lude est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers les corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et les veuves et la leur présenta vivante. C'est la fille connue de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager avec toute l'Église sur un thème. Comme vous le savez, tout le mois de novembre a été baptisé sous le mois de témoignage. C'est un mois où le Seigneur veut que nous puissions parler de lui, mais je suis aussi sûr que le Seigneur va parler de quelqu'un au cours de ce mois. Parce que le témoignage, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de bien. Et le Seigneur m'a dit de parler à son Église autour de ce thème qui est vraiment un engagement que Dieu veut que chacun de nous prenne. Bâtis-toi un bon témoignage. Bâtis-toi un bon témoignage. Bâtis-toi un bon témoignage. Tel est le thème que nous allons développer ce matin. Ce que je voulais que nous puissions d'abord remarquer dans ce chapitre 9, le chapitre 9 des Actes des Apôtres commence par une histoire merveilleuse d'un homme d'un certain témoignage, mais qui a connu le Seigneur et qui a été sauvé par Dieu. Il s'agit de Saul. Saul de Tarse avait nous dit qu'il respirait encore la colère contre l'Église. Et Saul décida d'aller persécuter l'Église et il allait auprès du chef de Sanhédrin à l'époque pour demander la lettre et aller persécuter l'Église. Et sur le chemin de Damas, il rencontra le Seigneur et il crut à Dieu. Mais aussi, les chapitres se terminent par aussi une histoire merveilleuse, aussi du salut d'un grand nombre de gens, mais au travers cette fois-là, d'un témoignage d'une femme qu'on appelle Tabitha. Et la question que je me posais, pourquoi est-ce que dans ces deux histoires, l'auteur préférait, ou soit Dieu a préféré, de définir ou encore de présenter ces gens par rapport à leur témoignage? Nous allons voir. Parce qu'au début, lorsqu'il vient pour Saül, il ne parlait pas de la vie de Saül. Il ne parlait pas de Saül comme étant le disciple de Gamaliel. Il ne parlait pas de Saül comme étant quelqu'un qui travaillait dans l'église. Il ne parle pas de Saül comme quelqu'un qui avait autre chose. Il parle seulement du témoignage de Saül. On dit Saül respirait la colère contre l'église. Ce matin, je vais prier à quelqu'un, si tu respires encore la colère contre l'Église, que le Saint-Esprit te rencontre. Tu as besoin, dans ce mois de témoignage, que toi-même tu reçoives Christ d'abord. Parce que quelqu'un qui combat, qui travaille contre l'Église, c'est quelqu'un qui travaille contre Dieu lui-même. Alors, cette histoire de Tabitha, qui sera notre histoire de ce matin, arrive à un bon moment. Au moment où l'apôtre Pierre s'est retrouvé en train de faire ses visites pastorales. Et dans ses visites pastorales, cette fois-là, il s'est retrouvé à Lude. Lude, c'était une ville qui était juste à 15 km de Jérusalem et à quelques mètres de Jopé. Plutôt à 15 km de Jopé. Et là, pendant qu'il visitait les églises, il a eu affaire aussi quelques miracles. Nous voyons déjà un bien-aimé aîné qui était malade. Il a reçu la grâce de Dieu au travers du ministère de Pierre. Et il arrivait qu'à ce moment-là, Tabitha était malade. Et Tabitha est malade, Tabitha mourut. Et lorsqu'elle est morte, la Bible nous dit que les gens l'ont lavée comme cela a été la coutume. On l'a placé dans la chambre haute. Mais je suis sûr que quelqu'un a dit non. Les gens comme Tabitha ne meurent pas comme ça. Laisse-nous, comme Pierre est juste à côté ici, laisse-nous aller voir Pierre. Et ils sont partis, ils ont appelé Pierre. Pierre est venu sans tarder. Alors pour ceux qui écrivent, retenez seulement que c'est vraiment une petite histoire par rapport à Jopé. Jopé, c'était une ville maritime. Il y avait un port sur Jopé et beaucoup de gens qui quittaient Jérusalem allaient prendre leur bateau à ce niveau-là. La Bible nous dit même que c'est à ce niveau-là que Jonas embarqua pour aller à Tarsis alors que Dieu lui demandait d'aller à Ninive. Donc c'était un lieu où les Juifs avaient l'habitude de se rendre. Et l'Église, lorsque l'Église a commencé à grandir, Jopé a été aussi touchée. Et c'est là où s'est trouvée cette femme de distinction qui va nous bénir ce matin, Tabitha. Je prie ce matin que le Seigneur puisse donner à cette Église des Tabitha. Les gens qui vont tellement regarder leur témoignages et disent, je vais bâtir sur ça. Je vais investir sur les témoignages. Vous savez, les témoignages, c'est la chose souvent que l'Église, les gens, à cette époque, on n'en a plus besoin. C'est-à-dire, l'essentiel est que Christ me connaît. Non. Dieu va te connaître, on a aussi besoin de te connaître. C'est très important. La Bible n'est pas contre ces choses. Alors, pour ceux qui écrivent ces trois notes, premièrement, par rapport au témoignage, le témoignage est le meilleur outil de marketing de Dieu pour vanter un homme qu'il a approuvé. Lorsque Dieu veut nous vanter devant les gens, il ne parlera pas de nos biens. Il ne parlera pas de nos diplômes. Il ne parlera pas des églises que nous avons eu à implanter. Il parlera du témoignage que nous avons auprès de lui. C'est un bon outil que Dieu utilise pour montrer aux gens qu'il a approuvé la vie de quelqu'un. Nous voyons ça dans l'histoire de Job. Lorsque Dieu vient parler de Job, il commence par donner un témoignage de Job. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et il a commencé à détailler ce qu'était Job. Deuxième des choses que je voulais que vous puissiez noter, c'est que le témoignage, c'est aussi une clé, soit qui ferme ou qui ouvre ta destinée. Les témoignages. Si tu négliges ton témoignage, tu es en train probablement d'utiliser ta clé pour fermer ta destinée. Et si tu regardes bien ton témoignage et que tu soignes ton témoignage, il est fort probable que tu sois en train d'utiliser une bonne clé pour ouvrir ta destinée. Dieu passe des fois par notre témoignage pour nous faire accéder dans notre destinée. Troisième élément que je voulais que vous puissiez noter, c'est que les compétences peuvent vous donner accès à une position, mais seuls les témoignages et les caractères vous maintiennent à cette position. Les compétences, les dons peuvent vous amener à devenir quelqu'un et les gens commencent à parler de vous. Et les gens commencent à voir les choses que le Seigneur est en train de faire au travers de vous. Mais ce qui va vous maintenir là, ce n'est pas les compétences, ce n'est pas les dons, c'est ton caractère et ton témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, c'est quoi un témoignage? Vite, vite, le témoignage, c'est juste l'acte par lequel on atteste publiquement l'authenticité de ses croyances. On atteste. Les gens voient et disent, oui, yeah, c'est vrai. Et toi-même, tu dis ce que j'ai dit ici, c'est ça. Ça, c'est le témoignage. Mais aussi, c'est une attestation des qualités que l'on reconnaît être celles d'une personne ou d'une chose. C'est aussi un témoignage. Bâtir n'est rien autre qu'enlever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. C'est-à-dire, je mets les choses ensemble pour que cela puisse se voir devant les gens. Lorsque nous parlons de bâtir un témoignage, c'est-à-dire il y a des choses que je vais mettre ensemble pour que lorsque les gens me regardent, qu'ils disent, ça c'est un bon témoignage. Parce que le témoignage ne se dit pas seulement, le témoignage se voit aussi. À un certain moment, on n'a pas besoin de continuer à parler de son témoignage. On a juste besoin de laisser le témoignage parler de toi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. Alors, il y a quatre vérités que Tabitha nous apprend sur un bon témoignage. C'est là que je vais m'atteler le plus. La première des choses que nous regardons dans la vie de Tabitha, c'est qu'un bon témoignage nous amène ou attire notre attention sur nos propres actions. Quelqu'un qui veut avoir un bon témoignage, c'est quelqu'un qui passe du temps à analyser ses actions, à regarder ses actions et à poser des bonnes questions sur ses actions. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, c'est que Dieu, en matière de témoignage, il est celui qui donne les plans du témoignage. Comment bâtir ton témoignage? Comment faire à ce que tu sois une personne qui sera bien témoignée? Vous allez retrouver ça dans la Bible, c'est plein. Mais Dieu peut aussi faire le marketing de ton témoignage pour dire aux gens, celui-ci, c'est un homme de bien. Dieu peut le faire. Mais une des choses que Dieu ne veut pas faire, Dieu ne bâtira pas les témoignages à ta place. Non, Dieu ne bâtira pas les témoignages à ta place. À des moments, nous prenons toutes les responsabilités, nous déposons aux mains de Dieu en disant, Dieu, si Dieu voulait. Non, Dieu l'a déjà voulu. La dernière fois que j'étais ici, je vous avais dit, Dieu a tout permis. Même tuer, Dieu a permis. Même voler, Dieu a permis. Mais c'est à toi et moi de regarder ce qui est utile. C'est à toi et moi de dire, est-ce que ça vaut la peine dans mon témoignage? Est-ce que je peux amener ça dans mon témoignage? Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Amen. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Ou soit, ça c'est la version parole vivante, que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle. Et il ajoute en disant, le modèle pour les croyants par la parole, par ta conduite, par ton amour, par ta foi, par ta fidélité et par ta pureté. Ça, Dieu ne le fera pas. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. La responsabilité d'être un modèle dans ma conduite, ça, c'est ma responsabilité à moi. Bâtis-toi un témoignage. Tabitha a fait des choses qui ont fait en sorte que lorsqu'on l'a lavé et qu'on devrait aller l'enterrer, les gens ont dit non, stoppons d'abord. Les gens comme Tabitha, non, on ne va pas vite. Pose-toi la question, est-ce que les gens diront ça de même pour toi? Est-ce qu'ils diront ça de même pour moi? Tes paroles veulent dire, tu dois te forcer à témoigner Christ. Que tes paroles témoignent Christ partout où tu es. Que les gens sentent que dans ce qui sort de ta bouche, ce sont des paroles qui bénissent. Dans nos maisons, qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous disons, les gens qui sont autour de nous, ils sentent Christ dans nos paroles. Au bureau, est-ce que lorsque nous parlons, les gens sentent qu'il y a Christ qui est en train de sortir de nos paroles? Ta conduite veut dire qu'il faut marcher de manière pieuse. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des gens qui les craignent. La crainte de Dieu est le commencement même de la sagesse. Tu veux avoir la sagesse et l'intelligence, marche de manière pieuse. Ton amour, la libéralité. On ne parlait pas beaucoup de la libéralité dans cette église. J'ai beaucoup aimé et j'ai suivi une prédication des hommes de Dieu qui dit ceci. C'est que la libéralité n'est pas d'abord une question de ce que tu as, n'est pas d'abord une question de combien tu auras, mais c'est une question de la disposition des cœurs et de l'état d'âme. Et lorsque nous parlons, des fois on nous dit, non, il faut faire attention, ne donner pas à tout le monde parce que tu ne connais pas son état d'âme. Non, la question ce n'est pas l'état d'âme de celui qui reçoit. La question c'est l'état d'âme de celui qui est en train de donner. La condition que Dieu pose, ce n'est pas l'état d'âme de celui qui reçoit. Parce que celui qui reçoit n'a pas la capacité de maudire ce que Dieu a béni. Si mon état d'âme est l'état d'âme de Tabitha, on ne parlait pas si Tabitha était une femme riche ou pas. La Bible ne parlait pas. On dit seulement que c'était une femme qui faisait beaucoup de bien. On parle seulement de ça. Mais lorsque nous regardons Paul en train d'écrire aux Corinthiens, il leur parle de l'église de Macédoine. On dit l'église de Macédoine dans sa pauvreté, mais elle a eu la joie de faire des dons à l'église de Jérusalem. Vous imaginez? L'église de Jérusalem, la capitale, est en train de connaître des problèmes, l'église mère. Mais une église où il y a la pauvreté, on peut voir la pauvreté. Mais parce que la disposition des cœurs, il y avait la libéralité, il y avait le souci de donner. Et le plus souvent, lorsque nous venons donner ici, nous pensons que nous venons enrichir cette église. Ou nous venons enrichir Dieu. J'aime bien la manière dont Paul est en train de dire. Il dit ceci, Seigneur, qu'avons-nous que nous n'avons? En fait, lorsque nous venons donner les témoignages que nous avons reçus, ce n'est pas un témoignage que nous venons donner. C'est de venir dire aux gens, écoutez les amis, je suis parmi les gens qui ont reçu. Je suis parmi les gens que le Seigneur a bénis. Et parce qu'on a cette disposition-là, on est en train de bâtir notre témoignage. Bien-aimé, le jour où tu fermeras l'œil, le jour où ta bouche ne saura plus parler, ton témoignage parlera de toi. Tabitha ne pouvait plus parler à ce moment ici, mais son témoignage pouvait aller chercher Pierre. Ses pieds ne pouvaient plus bouger, mais son témoignage pouvait encore bouger jusqu'à aller chercher. Où est Pierre? Où est Pierre? Où est Pierre? Où est Pierre? Donc ne te distrais pas avec de vaines philosophies. De vaines philosophies. Le jour où tu cesseras de faire, Dieu trouvera quelqu'un qui fera. C'est comme ça que Dieu opère. Le jour où nous tous, on ne sera pas là, cette église ici continuera. Les jours où tous, tout le monde n'est plus là, 40 ans, 50 ans, 100 ans après, il y aura des gens qui seront du haut de cette chair. Ils prêcheront. Donc comme pour dire, l'Église n'existe pas parce que nous existons. L'Église existe parce que Christ existe. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous bâtissons un témoignage. Nous bâtissons notre vie avec Dieu. C'est tout ce qui est important. Si je me lève très tôt pour préparer un message, ce n'est pas parce que je suis indispensable. C'est parce que je dois bâtir mon témoignage. Le jour où je ne serai pas là, les gens diront, il y avait quelqu'un qui montait du haut de cette chair. C'est tout ce qui est important. Et Christ dira, avez-vous vu mon serviteur tel? C'est tout ce qui est important. Ta foi, la foi montre la confiance en Dieu. Il faut que les gens trouvent qu'en toi, il y a la confiance en Dieu. Les choses ne marchent pas. Je sais que notre Dieu va s'élever. Il s'élèvera les derniers. Mon rédacteur, même lorsque tout le monde dit c'est fini, c'est fini. Les gens qui suivent le match, ils savent les remontades à des Barça. Alors que les gens commençaient déjà à quitter les chaises. Ils disent que c'est fini, c'est fini, c'est fini. À la dernière seconde, l'arbitre avait déjà le soufflet à main. Il y a les remontades qui est arrivé. Oh, je prie que le Seigneur, le Dieu de la dernière minute, dernière seconde, il te rencontre ce matin. Qu'il fasse en sorte que lorsque tout le monde dit c'est fini, mais parce que tu lui fais encore confiance, que ce temps-là arrive, qu'il te donne le sourire. Travail, ton témoignage, ta fidélité. La fidélité, c'est le respect des engagements. Combien de gens sont irrespectueux par rapport à leur engagement? Ils disent des choses qu'ils ne vont jamais faire, promettent des choses qu'ils ne vont jamais accomplir. Bon, ce n'est pas un problème, c'est parce que tu es un homme. C'est parce que je suis un homme. Il y a seulement Dieu Il dit, même lorsque tu es infidèle, je serai fidèle. Mais laisse-moi te dire une chose, ta fidélité bâtit ton témoignage. Les gens parlent de ta fidélité et aussi la pureté. À un certain moment, dans Samuel, chapitre 12, versets 3 et 5, je vois le prophète Samuel qui sort devant le peuple en disant, écoutez, vous-même jugez-moi, dites-moi, est-ce que j'ai volé quelqu'un? Est-ce que j'ai pris quelque chose de quelqu'un? Est-ce que j'ai fauté quelque part? Et regardez, écoutez le témoignage du peuple. Il dit ceci, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Quel témoignage! Dites-moi! Et les gens disent, mon cher, tu n'as rien pris, tu n'as rien fait, tu n'as rien, 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 rien. Mais qui disent rien, ce sont des gens qui te détestent. Deuxième chose, deuxième élément, deuxième vérité. C'est qu'un bon témoignage attire l'attention des hommes sur tes actions. Un bon témoignage attire l'attention des hommes sur ton témoignage. Dans le verset 39 des Actes des Apôtres 9, nous dit ceci, Pierre partit avec eux tout de suite. Quand il arrive, on le conduisit dans la pièce à haut de la maison, toutes les veuves s'approchent de lui en pleurant. Elles lui montrent les chemises, les vêtements. Les gens ont manqué de quoi dire. Ils ne savaient pas par où commencer. Ils disent peut-être, Pierre, si on te montrait les chemises que cette femme a eu à faire, si on te montrait les habits que cette femme nous a donnés, ça va te convaincre mieux. Et les gens ont commencé à avoir plus leur attention sur ce que tu es en train de faire. Je vais dire à quelqu'un, tu sais pourquoi est-ce que certaines personnes commencent à te quitter? Tu sais pourquoi est-ce que certaines personnes ne te veulent plus? Parce que ton témoignage les a déçus. Parce que les choses que tu as eu à faire, des fois ça les a déçus. On t'a donné la chose d'autrui. Tu as demandé 10 dollars, je vais te remettre après 2 jours. Et puis après 2 jours, tu as éteint le téléphone. Et puis après une semaine, tu commences à mal parler de cette personne-là. Et puis après un mois, tu as disparu. Du coup, tout le monde commence à avoir peur de t'offrir, de te donner même 1 dollar. Pourquoi? Un bon témoignage attire l'attention des gens vers ce que tu fais, vers ce que tu réalises. Et ce que j'ai commencé par dire, lorsque nous cessons de parler de notre témoignage, notre témoignage commence à parler de nous. Lorsque nous cessons de parler de nous, à un certain moment, nous n'avons plus besoin de dire, tu vois moi, je suis spirituel, tu vois moi, je suis chrétien, tu vois moi, je connais le Seigneur, tu vois moi, je marche pieusement. Non, non, on n'a plus besoin d'écouter ça. On a juste besoin de rester calme et les témoignages commencer à parler de nous. Pierre, regarde toi-même. Regarde. Nous avons les jeunes que nous voulons aller visiter dans les centres fermés et ouverts, ce sont les enfants qui sont à rupture familiale, notamment communément appelés enfants de la rue. J'ai peut-être 2 ou 3, 4 habits que mes enfants ne portent même plus. Parce que lorsqu'ils regardent, ils disent, moi je ne peux plus porter ça. Bien aimé, il y a quelqu'un qui cherche ça. Peut-être juste en donnant ses pantalons, un jour il va regarder en disant, tu vois ça Pierre? Ça vient de lui. La libéralité. Que Dieu nous donne une église des gens qui savent faire du bien aux autres. Qui savent faire du bien aux autres. Le témoignage devient improductif lorsqu'il ne se base que sur le mot, sur des paroles. Sur des mots et des paroles. Lorsque nous regardons les fonds, nous ne voyons rien. Mais tu parles tellement beaucoup que les gens commencent à se fatiguer de ce que tu dis. Alléluia. Troisième vérité, je vais aller vite, c'est que un bon témoignage attire l'attention des hommes à Christ. Rappelez-vous, un bon témoignage attire notre attention sur nos actions. Un bon témoignage attire l'attention des autres sur nos actions. Troisièmement, un bon témoignage attire l'attention des gens sur Christ. Si ton témoignage ne focalise pas les gens vers Jésus, pose-toi des questions, de quel témoignage tu parles. Si ton témoignage, c'est un témoignage qui décourage les gens dans la marche de la foi, pose-toi la question, c'est de quel témoignage tu parles. Parce qu'un bon témoignage doit amener la foule vers Jésus. Si tu es réellement quelqu'un qui a un bon témoignage, les gens te suivront. Les gens seront derrière toi. Les gens viendront vers toi. Alléluia. Sommes-nous en train de bâtir un témoignage? Dans le verset 42, on dit, cela fit connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Beaucoup crurent au Seigneur. Et je finis par comprendre que, vous savez, pour expliquer aux païens la foi, il ne suffit pas d'organiser plusieurs séminaires bibliques. Non. Présente plus seulement un bon témoignage. Les païens comprennent mieux le langage des témoignages qu'un langage de séminaire. Alléluia. Chère Église, les païens veulent voir qui nous sommes avant de se connaître ce que nous faisons. Ce que nous faisons est tellement beau au point que ce que nous sommes est tellement pire que les gens préfèrent regarder les pires que les beaux que tu présentes. Les bons témoignages. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Il dit, vous les mêmes femmes, soyez soumises chacune à vos maris pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole. Et ici, c'est juste une portion. Il dit, vous femmes, soyez de même. Parce que dans le chapitre 2, versets 17 à 18, il a parlé des serviteurs qui devaient être soumis à leur maître. Et là, il parle de manière générale. Que nous devons être soumis à nos maîtres par la foi, nos leaders par la foi, nos parents et tous ceux-là qui sont placés devant nous. Et il dit pas seulement à ceux qui ont un bon caractère, je vais lire ça. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs en la foi. Craignez Dieu, respectez le roi, serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres avec toute la crainte qui lui est due, non seulement à ce qui est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. Avec un mauvais caractère, dur, soyez soumis à eux, afin que s'ils ne croient pas à la parole de Dieu, qu'ils soient sauvés au moins par vous, sans parole. L'Église de Dieu, nous avons perdu l'authenticité. Nous avons perdu la force parce que nous avons perdu la force du témoignage. On a regardé le témoignage seulement dans les paroles, mais nous avons oublié que le témoignage, c'est d'abord nous. Les gens nous regardent mieux que ce qu'ils écoutent en train de parler. Et enfin, je vais terminer par là. Quatrième vérité, c'est qu'un bon témoignage attire l'attention de Christ vers toi. Un bon témoignage attire l'attention de Dieu vers nous. Imaginez-vous, bien-aimé, dans cette histoire de Tabitha. Pierre était à 15 kilomètres de Jopé. Et Tabitha venait de mourir. On l'a lavé. On l'a déposé là-bas. On ne sait pas si Pierre avait fait combien de temps à Lud. Parce que de Jérusalem à Jopé, il y avait 55 kilomètres. C'est-à-dire qu'il venait de faire déjà 40 kilomètres jusqu'à arriver à Lud. On ne sait pas s'il est arrivé le même jour. On ne sait pas s'il avait déjà fait quelques jours là-bas. La Bible ne précise pas s'il avait fait combien de temps. Mais on vient lui parler, Pierre, il y a une dame là. C'est une femme de distinction. C'est une femme qui a un bon témoignage. Pierre, elle vient de mourir. La Bible nous dit, aussitôt, Pierre se leva. Ma prière à moi ce matin, lorsque j'ai préparé ce message, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, Fais en sorte que mon témoignage puisse faire à ce que ma vie et ton intervention pour moi soient les interventions aussitôt. Pas des interventions, attends d'abord, non. Parce que vous savez, il y a certaines personnes, bien-aimées, qui, en fait, à cause de leur bon témoignage, ils ont fait en sorte que Dieu entre dans la dimension d'aussitôt. Dieu a quitté la dimension de la grâce pour eux. Il est arrivé jusqu'à la dimension de mérite. Dieu, ce matin, ma prière est qu'il puisse quitter de la dimension de la grâce. La grâce, c'est pour tout le monde. La grâce, ça se donne à tout le monde. Mais le mérite, ça donne aux élites de Dieu. Le mérite n'est réservé qu'aux élites. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu fait de telles faveurs. Alléluia. Luc chapitre 7, versets 4 à 5. La Bible dit, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'intenses supplications en disant, soulignez la partie qui vient, il dit, il mérite que tu lui accordes cela. Hé, hey, attends, de qui est-ce que vous parlez? Vous parlez du centenier romain? Le centenier romain, Jésus-Christ, a dit, on ne peut pas prendre le pain des enfants et donner ça aux païens, non, aux chiens. Non, le centenier romain entre dans la catégorie de ce que Jésus-Christ a dit. On ne peut pas prendre le pain des enfants et donner ça aux chiens. Mais les Juifs viennent vers Jésus. Ils disent, Jésus, pour cette personne ici, il n'est pas question de faveur. Nous ne demandons pas la faveur pour lui. Nous demandons parce qu'il les mérite. Il les mérite. Et Jésus, qui ne partait même pas vers les centenaires romains, il était dans autre chose. Il se retrouve en train de briser sa mission ou de changer le terme de sa mission parce qu'il devrait arriver dans la maison de quelqu'un qui mérite. Ce matin, je prie que Dieu, en te regardant et en regardant ton témoignage, qu'il dise, il mérite, elle mérite ce qu'elle demande. Et que ta prière ne soit pas une prière qu'il faut faire attendre, ça soit une prière d'aussitôt. Aussitôt, le Seigneur se leva et il partit. C'est vrai, la grâce, comme je viens de le dire, c'est une bénédiction que Dieu donne à tout le monde. D'ailleurs, dans la vie des chrétiens, la grâce, c'est ce qui donne le salut. Mais la couronne ne vient pas de la grâce. La couronne vient de mérite. La couronne, tu veux que Dieu te couronne, tu veux que Dieu te fasse asseoir là où le psalmiste est en train de dire, il me fait asseoir avec les grands et il dresse devant moi une table et en face de mes ennemis. Non, ça ce n'est pas une question de la grâce. Ça c'est une question de mérite. Ça c'est une question de mérite. Paul dit ceci, écoutez. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 jusqu'à 8, il dit ceci. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et à cause de ça, désormais, la couronne de justice m'est réservée. On peut dire ça à Dieu? On peut faire un don immérité, on dit désormais? On peut dire à quelque chose, un don qu'on va te donner que, comme un cadeau le jour de ton mariage, tu dis, bon, désormais, tout le monde qui va venir ici, tu dois m'apporter un cadeau. Non, tu m'as donné l'invitation, je viens. Ok? D'ailleurs, si tu es à Goma, sache bien que 60% des gens qui ont reçu l'invitation ne viendront pas avec des cadeaux. C'est clair. Parce que ce n'est pas dans la culture des gens d'apporter des cadeaux. Les gens, quand ils reçoivent l'invitation, c'est pour aller manger les frites. Amen. Mais ici, Paul est en train de dire, non. J'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi. Et j'ai... Non. Désormais, la couronne m'est réservée. La couronne m'est réservée. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Seigneur, parce que, je sais que tu m'as sauvé par la grâce. Je sais, c'est la grâce qui a fait de moi un enfant de Dieu. Je sais, mais Seigneur, regarde mes genoux. Regarde le temps que j'ai passé à l'église. Je regarde tous les temps que j'ai tout fait pour toi, Seigneur. À cause seulement de ça, je mérite. Et ce n'est pas une prière charnelle. C'est une prière spirituelle. On l'a fait à Jésus et Jésus ne s'est pas opposé à ces gens qui l'ont dit. Vous dites quoi, mériter? C'est quoi cette histoire? Jésus est allé vers les centeniers romains et il a agi parce qu'il méritait ce qu'il recevait. Tout est grâce, c'est vrai, mais il y a une certaine dimension où Dieu dit, ça, je dois le faire pour lui. Tabitha est revenue à la vie parce qu'elle a bâti un témoignage. Parce qu'il y avait des gens qui parlaient d'elle. Je termine ces messages, bien-aimés, en disant encore ce que j'ai dit. C'est que le mérite n'est réservé qu'aux élites de Dieu. Lorsque tu bâtis un témoignage qui parle de Christ partout où tu es, tu t'amènes dans la dimension des gens qui méritent ce qu'il fait. Les gens qui doivent recevoir ce qu'il fait. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à bâtir un témoignage. Je ne veux pas que, lorsque les gens me regardent, qu'ils disent en mal de moi. Je ne veux pas que lorsque les gens me regardent, qu'ils disent des choses en fait vraies, mais qui me détruisent. Je veux que lorsque les gens me regardent, qu'ils disent, ils méritent de voir la main de Dieu. À cause de ça, à cause de ça, ils méritent. En même temps, je vais demander à quelqu'un parmi nous qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, si tu es là, et tu veux dire, Seigneur, je vais quand même commencer par là, parce que les témoignages commencent par là. Tu ne peux pas aller témoigner pour gagner les gens à Christ si toi-même tu n'es pas encore gagné à Christ. Tout commence par là. Tu ne peux pas être élite de Dieu alors que tu n'as jamais commencé avec lui. Si tu es là, tu vas juste lever ta main. Je vais prier avec toi. Tu vas témoigner ce matin, Seigneur, je vais te donner ma vie. Que tu sois mon maître, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon sauveur. S'il n'y a personne ce matin qui veut faire cet engagement, je vais juste nous demander de nous tenir debout, tous. Tu vas vers cette prière en disant, Seigneur, quel est le matériel? Quels sont les matériaux que je dois encore placer dans ma vie pour bâtir un témoignage? Un bon témoignage. Un témoignage qui te glorifie. Un témoignage qui fera ce que, lorsque les gens te parleront de moi, qui disent, Seigneur, il mérite. Il mérite que tu lui fasses ça. Il mérite que tu lui fasses ça, Seigneur. À cause de l'amour qu'il a pour ton œuvre, à cause de l'amour qu'il a pour ton peuple, à cause de l'amour qu'il a pour les âmes, à cause de l'excellence et le témoignage qu'il a pour l'Église, il mérite. Prions. Seigneur, merci ce matin et merci pour ta parole. Merci, ô mon Dieu, mon roi, de nous avoir édifiés encore. Et merci, ô Père éternel, de nous avoir, ô éternel, amené à comprendre que tu as besoin. Besoin, Seigneur, de personnes qui te témoignent au travers de leur vie. Lorsque le monde nous regarde, que le monde nous voie plein de toi, plein de vie et plein de grâce. Parce que tu as travaillé avec nous durement pour bâtir les témoignages que tu as mis en nous. Merci, Père.
Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Merci de ce que tu bâtis un témoignage dans nos vies et avec nous. Quand toute chose, honneur et gloire ne reviennent qu'à toi. Que nos vies parlent de toi et qu'elles t'honorent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Un jour, nous